Bonjour Didier Rey, vous êtes docteur en histoire et maître de conférence à l'Université de Corse Pascal Paoli à Corte. Vous êtes aussi secrétaire général adjoint de la revue Études Corse.
Je suis plus secrétaire, j'ai laissé la place à plus jeune. Depuis, je suis passé prof, donc je suis professeur. Docteur, c'est même plus la peine puisque je suis passé professeur. Donc voilà, et je suis plus secrétaire général. Donc
Mes informations n'étaient pas actualisées. En
voilà.
tout cas, vous publiez régulièrement des articles, des ouvrages sur l'histoire de la Corse, mais aussi la géographie, la société corse plus généralement et le sport, évidemment, puisque vous êtes un passionné de sport au pluriel. Et vous avez fait publier en 2003 l'excellent ouvrage La Corse et son football. C'est l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui. Tout d'abord, 2003, l'année de parution de cet ouvrage. Il y avait et le Sporting Club de Bastia et l'AC Ajaccio en Ligue 1 cette année-là. On est 21 ans plus tard. Aucun de ces deux clubs n'est aujourd'hui dans l'élite. Comment on peut l'expliquer? Est-ce que c'est seulement un changement de paradigme économique?
Alors, oui, il y a beaucoup de choses. Bon, d'abord, pour le Sporting de Bastia, il y a eu la ruine en 2017, hein, les comptes qui avaient été falsifiés, et finalement la découverte de cette catastrophe économique, qui a quand même, n'oublions pas, laissé beaucoup de gens sur la paille. Des entreprises ont dû fermer, hein, des gens ont perdu leur emploi à cause de ça. Il y a eu ce point, donc le club est reparti de zéro, totalement de zéro, hein, en National 3. Quant à la CA, c'est un club solide, sérieux, depuis 2003, depuis la remontée en Ligue 1 2002. Mais il est vrai que oui, il y a un changement de paradigme qui fait que les clubs de régions sous-développées, entre guillemets, c'est-à-dire de régions pauvres comme la Corse, sont aujourd'hui irrémédiablement distancés. Et puis il y a un autre point aussi, c'est que le football, bien sûr, reste en nombre de licenciés, le premier sport pratiqué en Corse. Il faut un bémol. D'abord, lorsqu'on regarde la composition des licenciés, on se rend compte que dans le football traditionnel, c'est-à-dire celui qu'on joue sur un terrain 90 minutes, la seule catégorie qui progresse réellement, c'est celle des vétérans. Et en fait, c'est plutôt le futsal ou le beach soccer qui sont aujourd'hui en pointe. Puis, il y a les autres sports, notamment ceux qui sont liés aux pratiques nautiques, aux sports de plage, au tennis, même si celui-ci est un peu en recul, qui ont progressé, qui fait qu'aujourd'hui le football reste le premier, mais finalement il est rentré dans le rang. Et donc il y a un manque là aussi de jeunes, tout simplement, de viviers. Il suffit de voir la composition des équipes insulaires, où il y avait entre 5 et 9 joueurs corses selon les saisons. Bon, aujourd'hui il y en a un, deux, voire zéro parfois. Donc oui, il y a double changement. Un football qui régresse, le bassin de recrutement qui s'amoindrit considérablement, et puis bien sûr le nouveau football, entre guillemets, hein, c'est-à-dire la nouvelle économie du football, qui font que pour la Corse, région déshéritée, c'est très difficile de se maintenir.
Alors merci Didier Rey de participer à cette émission qui est la suite d'une précédente que j'avais consacrée au football insulaire en Méditerranée. Concernant la Corse, comment s'explique l'engouement des Corses pour le football? Car dans votre ouvrage, vous expliquez que dès les années 20-30, il y a déjà une quarantaine de clubs sur l'île, ce qui est énorme compte tenu de la démographie.
Oui, alors il y en avait même déjà une trentaine, mais avec des existences très très éphémères avant 1914. Hein. Mais parce que il y a deux raisons. D'abord, une raison très générale, c'est que ben, pour jouer au football, il suffit d'un espace plus ou moins plat, hein, une surface plus ou moins plane, ça suffit. Qu'il y ait de l'herbe ou des pierres ou n'importe quoi, ça c'est tellement peu d'importance, même si les ballons s'usent à vitesse grand V. Et ça, finalement, malgré le relief de la Corse, on peut en trouver, dans les villes notamment, parce que le football naît d'abord dans les villes, hein, Bastia, Ajaccio, Corte, dans l'ordre d'apparition à l'écran. Et puis il y a une raison aussi, une autre raison. Trois raisons, on peut dire. Une autre raison, c'est qu'il y a peu d'autres sports pour le concurrencer. La boxe, c'est vrai, mais les boxeurs souvent partent sur le continent pour faire carrière. Certains feront des carrières tout à fait honorables avec des titres de champion de France dans leur catégorie, mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas de vrais concurrents. Les sports traditionnels sont totalement à la dérive, n'existent quasiment plus. Donc en fait, le football est le maître du jeu. Et puis, il y a une raison culturelle. C'est qu'il permet la mise en opposition, hein, eux contre nous. Et là, il reproduit les schémas de la société corse très divisée, c'est-à-dire la permanence d'opposition. Alors, au niveau de l'île, il permet l'opposition, la vieille opposition historique qu'on rejoue sur le terrain de foot nord-sud, hein, poumons, tu as encore ce qui est le sud, Échisementes et qui est le nord. Et puis, au niveau des villes, on rejoue l'opposition, là aussi, entre la ville ancienne, la ville nouvelle, et puis, dans une moindre mesure, celle des catégories sociales. Et il y a un autre point culturel, c'est qu'il permet aussi, finalement, la mise sur le stade des principes planistes. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est d'avoir des amis, c'est d'avoir des relations, ici, l'équipe. Et l'ennemi, c'est l'autre, bien sûr, mais c'est avant tout l'arbitre. C'est-à-dire celui qui représente une autorité extérieure qui vient se greffer sur la société et qu'on essaie, bien évidemment, de mettre de côté. Ce qui fait que, dès les origines du football en Corse, les arbitres sont les victimes expiatoires. Lorsqu'il y en a, sont les victimes expiatoires des matchs de football. Voilà, ce sont les deux raisons. Des raisons sportives, générales, qu'on retrouverait un peu partout. Et puis des raisons, on peut dire, finalement très, très corse, mais très méditerranéenne aussi, hein, de ce fractionnement de la société et cette opposition. Même s'il peut y avoir des exceptions, des villes où, effectivement, l'ancienneté de peuplement ne joue pas. Mais en règle générale, ça se joue aussi à ce niveau-là.
Peut-être, merci pour ces précisions, mais peut-être que ça se joue moins, en tout cas dans votre ouvrage, on sent moins l'opposition comme on peut retrouver dans certains territoires ailleurs en France, entre cercle laïque et mouvement de jeunesse catholique.
Absolument pas. Bon, il est vrai que le football apparaît en 1905 à Bastia, donc c'est tardif. Si on regarde en France, ça apparaît quand même des années 1870, début des années 1880, au cœur de la victoire des Républicains en 1879, qui deviennent les maîtres du jeu en France. Et là, il y a une vraie opposition. Ce sont les lois laïques, etc. Non, en Corse, ça n'y est absolument pas. D'ailleurs, on trouvera des prêtres dans des organigrammes de clubs dans les années 20 et 30, des prêtres dans des clubs classiques. Non, absolument, c'est totalement absent.
Alors, quand on parle du foot corse, pour beaucoup, on a en tête, et c'est sans doute assez logique, le Sporting Club de Bastia. Pourtant, c'est à Ajaccio qu'on a pour la première fois un club dans l'élite du football français dans les années, fin des années 60, début des années 70. Donc, c'est à Ajaccio, c'est bien ça. C'est à l'AC Ajaccio qui est le premier à avoir goûté à l'élite.
Tout à fait. Alors, en fait, il y a une date cruciale, c'est 1959, avec des complications. Mais enfin, pour la première fois, un club corse est accepté dans un championnat national, en l'occurrence le CFA de l'époque, le championnat de France amateur, et c'est le Sporting. Mais avec une loi unique qui ne concerne que la Corse. Tant qu'un club corse est en CFA, le champion de DH ne peut pas accéder, ce qui n'est pas vrai pour les autres ligues. Bon, pour plusieurs raisons, on en parlera peut-être après. Et donc, le Sporting fait deux saisons, il descend, c'est le Gazélec qui monte, qui devient quatre fois champion de France amateur. Et du coup, l'ACA et le Sporting, qui ne peuvent pas accéder au CFA vu le règlement, choisissent le professionnalisme, tous les deux en 65. Ils deviennent pro et l'ACA, effectivement, réalise une très bonne saison, et accède en 1967 donc à la Ligue 1. Et le Sporting, etc., l'année suivante. En fait, si vous voulez, l'accession de la CA à la première division, ça marque l'apogée des années ajacciennes qui débutent en 63 avec le premier titre de champion de France amateur du Gazélec et qui s'achève, on peut le dire, cette année-là, en 67, avec l'accession de la CA qui, 6 ans plus tard, sera reléguée en Ligue 2, puis l'année suivante disparaîtra et sera reversé dans le championnat de Corse, ce qu'on appelait à l'époque la première division, mais la première division, celle qui se situait avant la PH, avant la promotion d'honneur, c'est-à-dire ce qui serait aujourd'hui le niveau le plus bas des championnats. Et du coup, le Sporting va se retrouver tout seul, et en fonction de ses résultats sportifs, mais aussi de la situation de la Corse, la situation politique, il va devenir finalement le club, la référence qu'il est resté jusqu'à aujourd'hui.
Ouais, c'était justement l'objet de ma prochaine question. Pour revenir un peu plus longuement là-dessus, c'est comment le Sporting Club de Bastia s'est transformé peu à peu en équipe un peu porte-étendard de toute l'île. Alors déjà, est-ce qu'il est le club porte-étendard de toute l'île, parce qu'il y a des rivalités? Comment ça s'est construit? Et voilà, donc pourquoi Bastia et pas Ajaccio?
Oui, alors d'abord, oui, ça demeure aujourd'hui le club. C'est le seul club qui ait des supporters dans toute la Corse. C'est pas le cas de la CA. Vous pouvez avoir une ou deux personnes ici, de ci, de là, qui sont pour la CA, mais ça s'arrête là. Le Sporting a des groupes de supporters de partout, y compris Ajaccio. Il y a un groupe de supporters à Ajaccio qui fait régulièrement les déplacements. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est resté. D'ailleurs, il y a un sentiment, il y a un complexe même d'infériorité de la part des Ajacciens qui surjouent parfois d'ailleurs leur corsitude pour essayer de rivaliser, mais ils ont beaucoup de mal. Alors, les raisons sont d'abord sportives. Il n'y a plus de club ajaccien en Ligue 1. Il y aura le Gazélec en Ligue 2, mais avec le statut promotionnel, qui est un statut bâtard entre professionnel et amateur, qui ne franchira jamais le pas, en tout cas dans ces années-là. Donc, il végète une équipe moyenne de Ligue 2. La CA s'est retrouvée en championnat de Corse, donc c'est terminé. Le Sporting va aussi avoir sportivement des résultats. Hein. C'est d'abord une finale de Coupe de France en 72, de bons classements, la place de troisième en 77, après avoir été longtemps joué pour le titre pendant longtemps. Et puis, il y a bien évidemment la Coupe d'Europe, 77-78, la victoire en Coupe de France en 81, avec tout au long de ce parcours des joueurs de classe internationale, hein, on pense à Djazik, Ray, Prisbergen, Tarantini. Donc voilà, un club qui a su aussi drainer, lorsque c'était possible, des vedettes. Mais c'est également parce que les meilleures années du Sporting, et ses démêlés avec les instances, correspondent à la montée de la revendication régionaliste, puis autonomiste et bientôt nationaliste. Et donc, en fait, le Sporting, malgré lui, au départ, vraiment malgré lui, devient le porte-étendard. Dans les stades, on voit dès la fin des années 60, début des années 70, des banderoles au contenu très, très clairement politique. Hein. Alors, à l'époque, les banderoles sont écrites en français, mais Corse, dernière colonie française, liberté pour les emprisonnés, pour les patriotes, puis bien très vite en Corse, Libertas Paris Patriotes, et puis des banderoles indépendantistes. Aujourd'hui, les groupes ultra sont très clairement indépendantistes, donc nationalistes et indépendantistes. Ce qui fait qu'il y a concordance en fait entre la montée en puissance sportive, les démêlés avec la Ligue, avec la Fédération, parfois des injustices flagrantes, un sentiment de victimisme très fort, et puis aussi cette montée en puissance par revendication, les événements d'Aléria, hein, où effectivement il y a un affrontement entre les militants autonomistes et les forces de l'ordre, qui font des morts parmi les forces de l'ordre, des blessés, un blessé grave chez les autonomistes. Ce qui fait que l'ensemble de ces éléments-là font que le Sporting devient finalement l'équipe de Corse. Il n'y a pas de sélection en Corse, mais ça devient en fait l'équipe de la Corse. Et ça l'est demeuré, ça l'est resté profondément.
Et puis vous parlez aussi dans l'ouvrage d'un contexte institutionnel à Ajaccio qui est peut-être un peu plus complexe par contre qu'à Bastia, puisque à Ajaccio, on a parlé du Gazélec, de la CA, il y a aussi ces fusions FC Ajaccio-Gazélec. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est encore un peu compliqué comme ça, parce que dans l'ouvrage, il est question aussi du coup d'enjeux au niveau municipal, au niveau même syndical, autour de ces clubs qui sont un peu plus complexes peut-être qu'à Bastia.
Oui, alors d'abord, la chance du Sporting, c'est de plus avoir de concurrents. Son grand concurrent, c'était le CAB, le Cercle Athlétique Bastier, qui finalement fait faillite et se retrouve, demeure en championnat de Corse. Donc du coup, il n'y a aucun concurrent. Ça facilite les choses. En revanche, à Ajaccio, il y a bien eu cette concurrence, puisque lorsque le Gazélec était en championnat de France amateur avec ses titres de champion de France, heureusement le dernier obtenu en 68, il y a plus de spectateurs pour les matchs du CFA qu'au stade de la CA. Donc il y a cette rivalité. C'est vrai que même si elle a disparu, elle a disparu dans les années 2010, hein, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, pas plus. L'ACA était considéré comme le club de la bourgeoisie parce qu'il était né en 1910 dans un environnement très bourgeois, très lié au tourisme, tourisme anglais hein, à l'époque essentiellement. C'était le club des bonapartistes qui ont dirigé la ville jusqu'en 2001 quand même. Hein. La seconde tenue à l'époque, il y avait la tenue donc rouge et blanc, enfin blanche rayée de rouge, qui était la tenue de l'ACA. La seconde tenue, c'était une tenue violette. Le violet étant, enfin mauve plus exactement, étant la couleur impériale. Donc c'était très clairement par rapport à Napoléon. Et le Gazélec, c'était la fusion du vieux football club ajaccien, qui était né en 1910 aussi, et de l'équipe du Gazélec, EDF-GDF, hein, qui n'arrivait pas à percer, qui avait fusionné, et du coup c'était un club d'obédience communiste, très clairement. C'est pour ça qu'il avait toujours refusé de passer professionnel. Et donc, il y avait bien cette opposition qui était encore d'autant plus forte à la fin des années 90, lorsque les deux clubs se sont retrouvés ensemble en Ligue 2. Donc là, évidemment, c'était chaud. Bon, aujourd'hui, les choses ont changé. La situation politique en Corse a profondément évolué. Le Gazélec a fait faillite. Il est monté une année en Ligue 1 et depuis, il est dégringolé. Aujourd'hui, il joue le championnat de Corse. Il est en tête de sa poule, d'ailleurs. Alors que la CA, lui, qui avait dégringolé, s'est reconstruit progressivement et aujourd'hui s'est enraciné. C'est un club très sérieux, qui n'a pas de potentiel du Sporting. Je crois que cette année, il y a 2500 ou 3000 abonnés à Ajaccio, à la CA. Il y en a 7000 à Bastia, alors que le stade est en travaux et donc qu'il y a une tribune fermée. Oui, une tribune et demie même fermée. Donc à Ajaccio, il y a eu ce contexte d'opposition très forte. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais néanmoins, il y a toujours cette différence à CA, Gazélec. Mais le fait qu'ils jouent dans des divisions tellement éloignées fait que pour l'instant, on peut dire que l'opposition a disparu. Pour l'instant, si demain le Gazélec remonte plus haut, sait-on jamais.
Vous parlez de la tribune fermée au stade Armand Cesari Furiani de Bastia. Ça nous amène à parler de ce stade parce que vous êtes intéressé à la question de la patrimonialisation. Donc, pour qui s'intéresse aussi, pour revenir à ce que vous parliez des banderoles et des groupes ultra, pour qui s'intéresse aussi à l'expression de la culture corse, il faut s'intéresser à un moment donné à ce qui se passe ou à ce qui s'est passé dans les tribunes de ce stade. Et puis, là, on parle des travaux. Quel avenir aussi pour ce stade, parce que j'ai vu passer des photos assez grandioses, disons qui correspondent à l'ère du temps d'un point de vue architectural. Quid de ce stade et de son avenir?
Alors bon, les groupes de supporters, c'est très intéressant. Il manque un travail d'ailleurs d'ampleur sur les supporters. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à avoir d'étudiants pour faire un sujet de thèse là-dessus. J'avais un étudiant, j'avais finalement trouvé un étudiant italien qui voulait faire une comparaison entre Bastia et Cagliari. Ça aurait été très très intéressant. Malheureusement, bon, il a décroché un travail, c'est pas malheureusement entre guillemets, hein. Et du coup, bien sûr, il pouvait plus, surtout en étant distanciel, conjuguer les deux. Malheureusement, il a arrêté la thèse. Mais là, il y a un vrai travail. Alors, le stade, si on veut prendre deux images, 1978, l'environnement, les chants, etc., diffusés par les haut-parleurs, sont uniquement francophones. Et ce sont des chants très, comment dire, très intégrationnistes. On entend Tino Rossi, on entend des chanteurs français qui ont, comme Nicolas Perrac, qui font une chanson sur Bastia pour l'occasion. Donc ça reste très. Et même le Allez Bastia est encore finalement dominant, même si depuis 72, depuis la finale de 72 en Coupe de France, progressivement on va sortir le Forza Bastia, qui vient de Forza Juve, hein, qui est inspiré de la Juve. Parenthèse, rappelons que. Jusque dans les années jusqu'à la fin des années 70 en Corse, notamment Bastia, Bonifacio, on capte beaucoup mieux la télévision italienne que la télévision française. Et puis ensuite on la capte aussi bien. Donc et l'Italie diffuse des matchs de foot régulièrement. Donc à la différence de la France. Donc il y a cette influence-là incontestablement, puis la parenté culturelle avec l'Italie. Ça s'est transformé après la catastrophe de 1992, où on a vu, déjà un peu avant, mais après, on a vu se structurer des groupes ultra, inspirés de l'Italie, mais aussi de Marseille. Hein. Et là, on a vu apparaître des banderoles uniquement en langue corse et des chants uniquement en langue corse. Et aujourd'hui, sauf exception, lorsque les banderoles sont là pour un message à caractère extérieur, hein, la fameuse banderole, hein, le Qatar finance le PSG et le terrorisme, qui là, forcément, est en langue française. Mais pour le reste, c'est en langue corse. Et de même que désormais, les annonces au stade sont faites en corse. Lorsqu'il y a un changement de joueur, lorsqu'on annonce l'équipe, etc. Donc là, il y a eu une corsisation. Mais dans les tribunes, lorsque je fréquente le stade depuis donc un demi-siècle maintenant, on entendait beaucoup plus parler corse dans les tribunes autrefois qu'à l'heure actuelle. Alors, au devenir du stade, depuis la catastrophe du 5 mai 1992, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu la tribune sud de refaite. D'abord la tribune nord, celle de la catastrophe, mais qui aujourd'hui nécessitera des travaux. Sud, qui a coûté 3 fois plus cher qu'elle n'aurait dû, qui est une tribune correcte. Et puis, il y a effectivement les tribunes est et ouest qui sont totalement à revoir, à refaire, qui sont en travaux, la tribune est. Alors, le financement, cette fois-ci, semble sérieux et bouclé, et donc il ne devrait pas y avoir de surcoût autre que ceux classiques sur un chantier. Et effectivement, normalement, les travaux devraient être terminés pour la saison de 2026. Donc, Bastia aura enfin un stade normal, ni plus ni moins, mais qui, au vu de l'histoire des infrastructures en Corse, apparaît comme quelque chose d'extraordinaire, mais qui ne l'est pas. Et c'est ça aussi, hein, une des grandes difficultés du foot en Corse, ça a été de survivre longtemps dans des infrastructures totalement inadaptées. Le stade de Foyen des années 60-70, même celui de la Coupe d'Europe, vous voyez les images, c'est un stade de campagne à peine amélioré. Voilà, donc là, il y a un changement, oui, il y a un avenir qu'on peut penser assuré. En tout cas, cette fois-ci, les pouvoirs publics, enfin, ex-district, désormais la communauté de communes, la CDC, enfin la collectivité de Corse, joue le jeu. Donc, espérons que les choses, apparemment, les choses devraient aller au bout de manière propre cette fois-ci.
On a parlé du victimisme et on a parlé du Gazélec. Alors, ma génération, moi, j'ai en tête le fameux scandale, puisque on peut parler de scandale de la saison 98-99 et de l'empêchement d'accession en deuxième division du Gazélec qui avait sur le terrain obtenu sa promotion du championnat national. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Parce que dans le livre, vous expliquez que parfois, et d'ailleurs à tort et à travers, il y a eu de la part des institutionnels du football corse cette manière de jouer le victimisme contre les instances fédérales du football français, et puis aussi quel rôle ont joué les instances du football français par rapport au football corse, parce que ça n'a pas toujours été simple. Et là, je pense évidemment au scandale de la finale au Stade de France, Bastia contre, c'était Lorient, et du tapage ensuite médiatique après qu'on ait sifflé la Marseillaise.
Oui, alors oui, il y a beaucoup de choses dans votre question. Alors, victimisme, oui, alors, tout commence en 59, en fait. En 1959, il y a une réforme du championnat de France amateur qui, désormais, va intégrer les champions de toutes les ligues. En fait, il y a une nouvelle formule. Il y aura désormais, donc, un championnat de France amateur et non plus cette formule. Or, dans ce championnat de France amateur, il est prévu 6 groupes et ensuite, les vainqueurs se rencontreraient pour être champion de France. Et dans les 6 groupes, le 6e groupe, c'est le groupe des clubs de l'Algérie française. Rappelons-nous que les Algériens, qu'on appelle à l'époque donc les musulmans, l'époque coloniale, les Algériens ont déserté les clubs à l'appel du FLN. Certains sont restés individuellement, mais tous les clubs algériens sont sabordés. Il ne reste donc que les clubs européens. Et en 58, l'arrivée de Gaulle au pouvoir, qui pense encore amarrer, garder l'Algérie française, il y a aussi le volet sportif. Et le volet sportif, c'est ce chemin de CFA avec les clubs algériens. Or, aucun club corse n'est prévu dans les équipes métropolitaines par rapport à l'Algérie. Aucun. Et donc, tout simplement parce que, alors, ce n'est pas des discriminations, mais ça marque bien, je veux dire, discrimination, ce n'était pas volontaire, mais c'est pire parce que c'est involontaire. Ça marque la place de la Corse. La Corse, visiblement, ce n'est pas la France. C'est-à-dire, ce n'est pas l'Hexagone. Ce n'est pas la métropole, ce n'est pas l'Algérie, évidemment. C'est entre les deux. C'est un entre-deux et donc est totalement oublié. D'ailleurs, en 1954, pour la Coupe du Monde, était sorti un ouvrage, Le football, en 2 tomes, très très bel ouvrage consacré au football français et européen. Et dans la description des ligues qui existent en France, la Corse n'y est pas. La Corse n'y est pas. Donc, le président du Sporting, puisque le Sporting est champion de Corse à l'époque, c'est lui qui aurait dû accéder, va batailler pendant un mois et demi. Au bout de 2 mois, finalement, les instances nationales acceptent un club corse, un seul, ce que nous disions tout à l'heure, mais pas deux. Il y a interdiction pour les clubs de Corse de monter. Ça durera jusqu'en 1993, jusqu'à la nouvelle réforme du CFA, d'où le choix du professionnalisme par les deux autres. Voilà. Donc, ça, il y a ça. Et puis, l'autre choc, c'est le choc culturel. Les Corses sont intimement persuadés d'être des Français à part entière, et lorsqu'ils vont jouer sur le continent, l'image qui leur est renvoyée finalement, c'est celle de l'altérité, des Italiens, ou en tout cas avec des banderoles qui les accueillent, Corse, bienvenue en France. Et pour les Corses d'époque, c'est un choc terrible. Et puis très vite, le discours qui va apparaître, c'est que on peut pas venir jouer en Corse parce que on peut pas gagner. Et les parties se déroulent dans un environnement scandaleux. Or, il y a deux choses là. C'est que lorsqu'on interroge les joueurs de l'époque, ils vous disent clairement que ce discours apparaît à partir du moment où les équipes, le Sporting en l'occurrence, commence à gagner des matchs. Tant que le Sporting prend des roustes chez lui, tout va bien. Mais à partir du moment où il compte sportivement, il devient un concurrent, donc à éliminer. D'autant plus qu'il a été accepté de manière très... Et puis, il y a l'autre élément aussi qui rentre en ligne de compte, c'est que le coût des déplacements, ça coûte cher aux clubs insulaires et ils doivent se débrouiller. Or, les clubs du continent demandent l'exclusion en 65 des clubs corses au prétexte qu'ils seraient trop violents et parce que ça coûte trop cher. À part que chaque club continental n'a à se déplacer qu'une fois par saison, alors que le Sporting se déplace plus tard, le Gazélec se déplace tous les 15 jours, tout au long de la saison. Et puis, il y aura, c'est vrai, des histoires, des scandales. Vous avez évoqué, oui, le scandale du Gazélec sur un point du règlement qui est d'ailleurs destiné à être aboli quelques semaines plus tard. Donc, un vrai déni. Mais là aussi, je pense qu'on est tout simplement dans le cas qui s'est posé. Alors, attention, hein, toutes les choses étant égales par ailleurs, mais qui s'est posé un peu plus tard pour l'Uzenac. On ne veut pas de petits clubs. C'est gênant, finalement, ces clubs. On s'en débarrasse comme on peut. Et là, avec un scandale, effectivement. Mais il y en a eu d'autres. Hein, il y en a eu d'autres, effectivement. Le Gazélec se trouvait éliminé d'un match de Coupe de France par une équipe qui a un joueur non qualifié. Le Gazélec porte les réserves. La fédération lui donne raison, mais ne le requalifie pas pour autant. Ainsi de suite. Et donc, vous allez avoir le sentiment de la part des insulaires d'être considérés comme des Français de seconde zone. Et c'est un choc. C'est un choc. Vraiment. Et là, il y a un victimisme. Alors après, c'est vrai que les instances corses vont profiter aussi de ça, de se présenter en victime. Et le victimisme aura un aspect totalement néfaste. Ce qui permettra de ne pas mettre les infrastructures à niveau. Et la catastrophe de Fourgan, elle le sort aussi, en partie, hein, attention, en toute petite partie, mais aussi de ce victimisme. C'est-à-dire l'obtention de dérogations en permanence. La fédération ou la ligue ayant parfois mauvaise conscience, à cause de ce passif, accorde des dérogations sans trop y regarder. Et pour le coup, ça aura une conséquence, des conséquences réelles. Mais oui, il y a eu effectivement des situations d'injustice, des situations iniques qui ont marqué beaucoup les Corses. Et surtout lorsque les Corses veulent répliquer, ils répliquent avec un argumentaire qui fait rire. Parce que c'est l'argumentaire de la construction de l'identité française de la Corse. Nous, les Corses, maintenant, nous sommes français parce que nous sommes morts sur les champs de bataille en nombre plus important que les continentaux, ce qui est faux, mais qui est cru. Et donc, les réponses font rire. Prenez après les incidents du match Lens-Bastia, la réaction des édiles corses qui montent au créneau en ressortant 14-18, 30-45, et l'équipe fait un petit encart très, très méchant, hein, la coupe menace l'unité nationale. Et vous lisez l'encart qui se moque des dirigeants insulaires et des hommes politiques insulaires. Et voilà, là vous avez donc ce mélange, ce fait qu'en fait, au départ, ce qui a choqué les Corses, c'est de ne pas être accepté et vu comme des Français à part entière. Alors les choses vont beaucoup changer ensuite, hein, et même totalement changer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est au contraire réclamer même la séparation et la mise à distance. Et voilà, c'est cet ensemble qui a énormément influencé et influé sur les représentations en interne, mais aussi à l'externe.
Dans la précédente émission, je citais Cagliari Calcio, qui fut champion d'Italie en 1970, le Real Club Deportivo Mallorca, qui a été vainqueur de la Coupe d'Espagne en 2003 et finaliste malheureux de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1999. Donc une finale européenne perdue, comme Bastia, c'était en Coupe de l'UEFA 1978. Cagliari, Mallorca, Bastia, trois clubs insulaires avec un palmarès qui compte au niveau national et une certaine visibilité au niveau européen. Alors au final, pour trois clubs au niveau des îles de Méditerranée, avec ce palmarès hein, que je viens de citer, est-ce que c'est peu ou est-ce que c'est déjà beaucoup?
Alors, statistiquement, effectivement, c'est peu. Ça représente pas grand-chose. Mais dans la réalité, c'est beaucoup. D'abord, c'est beaucoup symboliquement. Hein. Et Cagliari, d'ailleurs, joue une demi-finale de Coupe de l'UEFA, je crois, en 98, me semble-t-il, ou 99, je ne sais plus. Loupant, vraiment, contre les Juve, je crois qu'ils sont éliminés. Je ne vais pas vous dire de bêtises à vérifier, mais je crois qu'ils sont éliminés à la règle qui existe à l'époque du but marqué à l'extérieur. Je crois qu'ils font 2-2 chez eux et 1-1 à Turin. Donc voilà, et ils sont ainsi éliminés. ne jouera pas la finale. C'est beaucoup symboliquement. D'abord, le Cagliari, 70. Cagliari, vraiment, d'ailleurs, c'est très intéressant. Lorsque Jazic, qui est le recordman des sélections de l'équipe de Yougoslavie, hein, qui est un très grand joueur, signe à Bastia, dans France Foot, il y a un article, Bastia sera-t-il le Cagliari du football français ? Cagliari, c'est Dieu du Rive, qui est mort il y a peu de temps, et qui a, son enterrement a été une vraie manifestation d'attachement. On peut comparer, encore une fois, avec bien sûr toutes choses étant égales par ailleurs, mais Gigi Riva à Cagliari, c'est Maradona à Naples, mis à part que Gigi Riva est resté vivre à Cagliari et est devenu le symbole du football sarde, lui qui était piémontais, lui qui n'était pas sarde. C'est beaucoup, parce que ce sont des îles, d'abord économiquement, en tout cas pour la Sardaigne et la Corse, qui ont été longtemps à la dérive, moins peut-être pour les Baléares avec le développement d'un tourisme, même si ce tourisme, baléarisation, c'est un terme surtout péjoratif. Mais oui, c'est beaucoup par rapport aux populations, par rapport au développement, et puis par rapport, encore une fois, au symbole et à cette revanche symbolique très forte. Hein. Le titre de Cagliari, c'est dire, voilà, vous les riches du Nord, vous les Italiens, finalement, les Italiens de terra verma, du continent, hein, pour exemple, en français, nous vous donnons la leçon, nous vous donnons la leçon. Voilà. Le Sporting à 81, c'est ça. En plus, une finale contre Saint-Étienne. Le Saint-Étienne des années vertes. Voilà. Il y a Rep et Platini quand même dans l'équipe. C'est pas rien. C'est beaucoup. Et Morque, c'est la même chose par rapport au grand club espagnol. C'est peu, mais c'est énorme. C'est beaucoup. Et c'est quelque chose qui, au niveau des revanches symboliques, c'est quelque chose de très important. Et il faudrait voir d'ailleurs, avec le bassin oriental de la Méditerranée, il faudrait voir ce qu'il en est avec l'OFI de Crète, hein, le club crétois. Et puis, vous savez, on pourrait même étirer de l'autre côté, vers l'Atlantique, avec les Canaries et Madère. Là aussi, même si, de mémoire, je ne veux pas dire bêtises, mais ces clubs-là n'ont pas, en tout cas pour Madère et les Canaries, n'ont pas de titre. Là aussi, le fait même d'exister, de participer au championnat de Ligue de Serie A, de première division, pas de Ligue 1, mais même de Ligue 2, à la limite, c'est déjà beaucoup. Et c'est aussi le fait d'être là. Voilà, c'est énorme, oui, bien sûr.
Et si on devait retenir sportivement un fait d'armes du football corse, lequel ce serait ?
Voilà.
On peut laisser parler les émotions et les souvenirs. Hein.
Alors écoutez, je vais laisser parler l'émotion. Pour moi, c'est le match Torino-Bastia, hein, Turin-Bastia, contre le Torino. J'y étais, j'avais 17 ans à cette époque. Je crois que c'est peut-être le plus beau moment. Et même, vous voyez, même devant la finale de la Coupe de France de 81, où j'étais aussi, donc j'étais jeune, en 80, étudiant. Oui, je pense que ce sont peut-être les deux. Il y en aurait trois, si vous permettez. Et le troisième, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais pas au stade, au Parc des Princes, c'était l'inauguration. C'est la finale de 72, parce que elle sportivement, mais même culturellement, elle marque un palier, elle marque un changement de paradigme, vraiment, vraiment. Mais sportivement, oui, je crois que pour moi, ça reste le match Torino-Bastia de décembre 77 au Stadio Comunale.
Pour les plus jeunes, on va quand même rappeler le Torino. On parle d'une équipe dont la moitié des joueurs étaient internationaux italiens. C'était la référence en Italie. On ne parle pas d'une équipe de bas de tableau. Et Bastia avait, à Turin, été chercher une victoire. Et c'était un résultat européen grandiose.
Oui, oui. Vous pensez que le Torino est, pour vous dire de bêtises, le Torino est champion d'Italie en 76 et finit second en 77, à un point, je crois, de la Juve. Et donc, finissant second, il joue la Coupe de l'UEFA. Voilà. Et vous avez raison, la moitié de l'équipe jouera la Coupe du Monde 78 quelques mois plus tard. Tout à fait. C'était une très grande équipe. C'était pas le grand Torino des années 40, mais c'est la deuxième période. D'ailleurs, depuis 76, le Torino n'a jamais pu remporter le championnat d'Italie. C'est dire quelle équipe représentait le Torino. C'est vraiment une très grande équipe. Oui.
Enfin, pour conclure, on a coutume peut-être parfois d'entendre que quand on demande en tout cas aux amoureux de football en France, ça serait quoi la première division rêvée, avec quelle équipe ? On entend souvent que quand même, un championnat de France de Ligue 1, enfin de première division dans lequel il n'y a pas un club corse, C'est pas vraiment un bon cru, on va dire. Est-ce que c'est pas peut-être aussi ça un peu la victoire du football corps, une certaine forme d'acceptation et puis quand même peut-être aussi un petit peu d'admiration aussi?
Oui, écoutez, oui, c'est vrai. Alors, ben, je ne vais pas vous dire le contraire, étant là, c'est plus le prof qui parle, mais le vieux supporter du Sporting. Bien sûr, oui, voilà, l'équipe Corse, d'ailleurs, que ce soit, même si je suis supporter du Sporting, je préférerais que ce soit Bastia, mais que ce soit la CA revient au même de ce point de vue-là. Oui, c'est vrai, c'est une victoire, parce que ça n'a pas été facile. Hein. Depuis 59, ça n'a pas toujours été facile, même si la catastrophe de Fouriagne a quand même changé un peu la donne. Du côté des instances avec les responsabilités qui n'ont pas voulu être assumées, pardon. Oui, mais c'est oui, vous avez raison. Le fait de dire sans un club corse, c'est pas vraiment. C'est oui, c'est une. Effectivement, on peut le dire, c'est une bonne chose, surtout quand on voit sur la longue durée. Tout à fait.
Merci beaucoup Didier pour cette interview. Et puis, tout ce qu'on a pu dire sur le football corse et plus largement aussi sur le football insulaire, parce qu'on a aussi quand même largement parlé de Cagliari Calcio. Et puis il ne nous reste plus qu'à souhaiter eh ben, une bonne forme au club corse dans la suite de leur championnat, en attendant de pouvoir les retrouver dans l'élite du football français.
Mais écoutez, merci à vous pour cette belle émission. Et puis oui, espérons, espérons.